Les règles, c'est si vous pouvez lever la main pour prendre la parole, histoire qu'on voit qui c'est, voilà, et on se passe la parole, et puis d'essayer d'être bref dans ce que vous dites pour que plus de personnes possibles puissent échanger. L'idée, c'est que Ricardo va lancer la discussion, mais après, il va faire ça brièvement, normalement, et après, la parole est libre, et puis l'idée, c'est d'échanger ensemble. Yann Cagnotte avec Prix Libre, et j'insiste sur le fait que de laisser vos coordonnées, comme ça, on peut vous tenir au courant des futurs événements, s'il y en a.
Quelques mots sur ce que vous avez vu. Le premier film est assez connu, hein. Vous avez, il est là derrière, Pierre nous montre, voilà. En fait, c'est deux DVD. Un premier, c'est, dont vous avez vu des extraits, c'est des interviews de Chomsky et de Normand Baillargeon. Et un deuxième film a été fait après un an, après que ça ait circulé un peu partout, en France, en Belgique, en Suisse, le film, et que les gens aient posé des questions pendant les débats après les films. Et Mermet et son équipe sont retournés voir Chomsky un an après avec les questions des gens, et, pour approfondir un peu. Je crois notamment sur une question assez cruciale de notre point de vue qui est dites-nous, vous êtes pour l'anarchisme, c'est quoi? Comment ça se fait? Comment ça marche? Voilà. C'était pas dans les extraits de ce soir, mais il y a des bouts très intéressants et Chomsky prend souvent position sur cette question. Alors, bon, y a ce film-là, et il y a un deuxième film que vous avez vu. Donc, dans le premier film, il y a des bouts de... Puisque l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour se battre contre cette industrie, cette fabrication du consentement. Il y a quelques idées de Baillargeon qui me paraissent extrêmement intéressantes. Donc, il y a son bouquin, là, petit cours d'autodéfense intellectuelle. Et il y en a aussi d'autres écrits par Baillargeon. Il y a des choses écrites par Chomsky. Il y a beaucoup de choses écrites par Chomsky qui permettent de déconstruire cette grosse machine de la propagande, notamment celui qui s'appelle Comprendre le pouvoir, qui est là aussi, où on est très surpris d'apprendre comment, au cours de l'histoire, on a fabriqué des tas de fausses vérités pour justifier tout un tas de l'entrée en guerre dans la Première Guerre mondiale, mais aussi l'entrée en guerre contre le Japon des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, en prétestant qu'on avait attaqué une base américaine alors qu'elle n'a jamais été rien. Enfin, c'est plutôt les Américains qui ont attiré les Japonais, semble-t-il, pour être bombardés, pouvoir dire ah ben, comme ils ont commencé, on va leur taper dessus. Le deuxième film est un film de 50 minutes qui est distribué gratuitement par un système Creative Commons, c'est-à-dire qu'on peut, aller le télécharger, etc. Et là, je suis en train de le sous-titrer en français parce que pour l'instant, il est sous-titré en anglais et voilà. C'est fait par des copains brésiliens. Ça se passe dans 4 pays, au Brésil, au Mexique, en Palestine et à Hong Kong. Et ça montre comment, avec un petit outil, vous avez vu, le mec, il a un masque anti-gaz, c'est bien, parce qu'il y a des lacrymogènes, un casque pour quand il se fait matraquer, et puis il a un smartphone, d'accord. Et là-dessus, il y a un petit programme qui s'appelle, je ne sais plus, mais je l'ai, avec lequel on pourrait transmettre ce qui se passe ici en direct. Les gens qui suivent entendent mes commentaires et le son de la salle, et ils peuvent envoyer des tweets pour poser des questions à celui qui fait le journaliste. Donc ça, c'est pour Radio Libre, c'est l'évolution peut-être. Voilà. Non, c'est pas Périscope, c'est un autre. Mais enfin, bon, un truc comme ça. Et c'est complètement dingue. Et ils arrivent à avoir des audiences jusqu'à un million de personnes qui suivent en direct. Bon, c'est quand même un pays de 190 millions d'habitants. Hein. Mais il se passe un truc à Rio qu'aucun média ne veut couvrir. Hein. On a vu pour quelles raisons. Et eux, ils arrivent à avoir une audience d'un million de personnes qui suivent en direct ce qui se passe. Ils enregistrent et après, on peut retrouver sur le net. En Palestine, c'est une jeune fille qui fait quelque chose de semblable. Et au Mexique et à Hong Kong aussi. Donc, on voit comment on peut arriver à briser ce mur de béton des grosses corporations qui monopolisent les médias en trouvant d'autres systèmes et des subterfuges et en utilisant la technologie qu'eux-mêmes promeuvent pour essayer de nous endormir. L'idée de ce soir, c'est peut-être qu'à la suite de cette soirée, qu'on puisse ici à Nissignol avoir aussi des soirées où on travaillerait un peu plus en atelier pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut ici se bricoler des choses pour fabriquer du déconsentement ou du déminage parce que en fait ce qui se produit c'est une sorte de on a appelé ça du minage, enfin des minages parce que il y a un pouvoir absolument disruptif, explosif de cette fabrique du consentement qui fait exploser les solidarités et les liens sociaux. Je vous ai mis un petit bout de Darius Rochebain, là, c'est distille ça au quotidien, où il parle du psychodrame grec. Vous voyez, ils en font toute une tartine, les Grecs. C'est un problème psychique, ils ne sont pas en train de crever de faim. C'est un psychodrame. D'ailleurs, la croissance reprend. Chez nous, pas chez eux. Bon, c'est notre affaire. Pendant les manifestations contre les lois El Khomri, vous savez, quand il donne les titres au début du téléjournal, il dit « Encore beaucoup de manifestations en France aujourd'hui. La France est-elle irréformable ?» Vous voyez ces petits mots, comme dit Baillargeon, qui colorent très, très, très bien l'information, c'est de dire les Français, on essaye de vouloir leur bien, ils sont incapables de se laisser faire. Vous voyez, on voudrait les réformer pour leur bien et ils s'opposent. Ils n'ont rien compris. Et tout ça, ça fait un travail de sape de notre conscience au jour le jour qui est absolument intoxicant. Alors peut-être qu'avoir ici de temps en temps des petits ateliers pendant ces soirées pour réfléchir à comment est-ce que nous on pourrait mettre quelques grains de sable dans ces engrenages-là. Voilà. La discussion est ouverte. Moi, j'ai rien d'autre à présenter. Peut-être quand même deux mots sur Chomsky, parce que ça vaut quand même la peine. Ce monsieur a 88 ans. Il travaille 60 heures par semaine. Et je trouve vraiment terrible qu'il puisse encore y avoir des gens comme ça.
Moi, j'aurais une petite anecdote, du coup. On a récemment interviewé Héloïse Lebourg, qui a commis un film qui s'appelle « Sur la route d'Exarchéia », qui est ce quartier dans le centre d'Athènes où des magnifiques choses se passent. Et donc l'année passée, vous savez que le film de Yanis Yiloutas d'ailleurs sort actuellement, et elle a fait un documentaire qui s'appelle Sur la route d'Exarchéia, sur les convois. Alors le dernier convoi, c'était un convoi qui était fait de jouets et de médicaments, et il est passé au travers de l'Espagne, de la Belgique, de la Suisse et de la France. Et le récit est fait par ses deux petites filles, et c'est vraiment un très 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 joli film, je vous le conseille. Et arrivé là-bas, eh bien, les gens du quartier acclament vraiment les amis des drapeaux anarcho-syndicalistes, flottes, anarchistes, tout ça. C'est vraiment d'extrêmement beaux moments. Les enfants sont partout dans la rue. Et à côté de ça, on a vraiment les mass-médias, les téléjournaux qui parlent vraiment d'anarcho-terroristes qui arrivent dans Exarchéia et qu'il va falloir faire quelque chose parce qu'évidemment, il y a urgence et il y a danger. C'est extrêmement incroyable de voir que dans un quartier de 40 000 habitants environ, eh bien, les gens sont dans les rues. Il y a des embrassades, il y a des scènes incroyables où les enfants offrent des cadeaux et des jouets à d'autres enfants, ainsi que des médicaments. Il y avait du lait maternel. Enfin, vous voyez le truc, la portée terroriste du truc, quoi. Et que dans les quartiers voisins, eh bien, les gens, dans les quartiers, je ne sais pas, bourgeois ou quoi, eh bien, les gens ont une image extrêmement faussée du truc. Et ils ne s'intéressent pas, ne vont pas plus loin que cette image par le prisme de ces médias aux mains de je ne sais qui. Je trouve assez marrant de voir que même au sein même de la même ville, on puisse arriver à avoir des lectures tellement antagonistes d'un événement.
Tu peux redonner le nom du film, s'il te plaît ?
Sur la route d'Exarchéia. Ouais, c'est X Je ne sais pas l'orthographe de ce quartier.
Ouais, c'est que vous avez pris les enfants en otage, c'est ça, pour vos idées subversives, pour votre guerre, vous avez pris les enfants en otage.
55 ans, vraiment, il a pleuré. Hein. Moi, j'ai pu le voir, il est extrêmement beau. Et on voit vraiment ces enfants qui donnent ces cadeaux aux enfants. Puis ces gens, il y a un monsieur, ils font des cantines populaires en Grèce. Enfin, vous connaissez l'état de la situation là-bas, c'est une catastrophe. Et on voit vraiment ces médias avec, comme on l'a vu là, ouais, qui disent, ce sont des anarcho-syndicalistes qui viennent de partout, des cosmopolites, des... enfin je sais pas, là aussi on a tout un champ sémantique complètement hallucinant qui est utilisé, et puis on, voilà, enfin, c'est... voilà, c'était juste pour... Héloïse Lebourg, la réalisatrice.
Une question, c'est, comment lier les deux passages, donc on a le documentaire avec Chomsky. On a Baillargeon qui nous parle du lien, de l'humain, où on est là, on est autour d'une table, on parle. Ça me fait penser aussi à Lâche. Et après, on part sur quelque chose qui est... Alors là, j'ai pensé à Ellul, à Charbonneau, la technique. On nous parle de Facebook, on nous parle de nombre de clics, non, ça c'était pas des clics, de gens qui ont vu, etc. Des millions de gens qui voient, qui retiennent quoi? C'est... quand Ellul parle des médias, de la télé, et puis de tous ces documentaires qu'on peut avoir, et qu'est-ce qu'on retient de tout ça. Et pour moi, technique est plutôt quelque chose qui se rapproche de quelque chose de total, de totalitaire, d'une pensée globale. Même si on veut nous faire croire qu'on peut avoir la voix de la dissidence, c'est quand même la voix de son maître. Par des outils auxquels je n'adhère, mais vraiment pas. Donc c'est le lien entre les deux, j'ai du mal à le faire.
Le film dure 50 minutes, hein, le deuxième. J'ai pris le bout du début, qui me paraît important, parce qu'il parle de la grève des éboueurs. S'il y a des gens dans la société brésilienne et même dans la nôtre dont on tient vraiment très peu compte, ils sont tout en bas de l'échelle, c'est bien ces gens-là. Et ils arrivent à donner un écho à ce mouvement de grève qui est absolument formidable à travers tout le pays. Ça passe par un média qui est Facebook, c'est effectivement pas sympa. Mais ils arrivent à faire quelque chose avec ça, et ils arrivent à faire plier les pouvoirs publics pour qu'ils haussent les salaires, enfin pour que les revendications soient... Alors que les éboueurs étaient en grève depuis un bon moment, et ils se heurtaient à un mépris et une inconsidération totale des pouvoirs publics. À partir du moment où il y a ce retentissement-là très large, ils obtiennent gain de cause. Alors, le média peut être retourné contre ceux-là même qui essayent d'en servir comme un outil de soumission, de domination. La presse, dans le mouvement libertaire, a toujours été quelque chose d'absolument important. Nous avions même un quotidien qui s'appelait Le Réveil anarchiste pendant quelques années, qui était même quotidien dans les années 30, je pense. Hein.
Hebdomadaire,
d'accord. Voilà, tu me casses un mythe.
Pendant 47 ans.
Oui.
À Genève.
À Genève, oui.
Et ça veut dire que quand ils retranscrivaient des mouvements comme ça de force et de pression et tout, on avait juste le nombre, tandis que là ils ont carrément les noms, ils ont carrément les visages et tout. Après c'est ça qui, en même temps, c'est un nouvel outil, c'est-à-dire que ça va se faire avec ça de toute façon. Pour les jeunes, ils vont le faire avec ça.
Hein. Est-ce que la lutte ne passe pas aussi par la lutte contre la technique, contre l'immédiateté?
Peut-être bien, oui.
Est-ce que le fait, un jour je me suis intéressé à l'anarchisme, tiens, je suis tombé sur tel auteur, parce que j'ai eu aussi peut-être le temps, parce qu'il y a aussi une question de ne pas être dans quelque chose d'immédiat, il y a aussi ça. Est-ce que là vous parliez aussi peut-être de quelque chose? Est-ce qu'on est passé pour moi là, c'est, on est vraiment dans le spectacle intégré.
La question, c'est en quoi le livre ou la revue ou le journal serait meilleur que le Facebook.
Voilà.
Alors, il y avait Julia.
Non,
il y avait le monsieur avant. Voilà.
Puis après, je prends note.
Par ces personnes, c'est pas Facebook, la technologie. La technique du détournement. Donc ça, c'est une technique qui peut être utilisée dans tous les cas. C'est-à-dire, c'est la seule arme qu'on a en tant que dépossédé. Les dépossédés, ils peuvent que utiliser les outils qu'on leur donne pour travailler, pour... Voilà, c'est un retournement. Mais par rapport à l'immédiateté, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est-à-dire que la seule possibilité de démocratie, c'est l'immédiateté. L'immédiateté, c'est-à-dire le fait de se rencontrer sans médias, comme nous, ici, ce soir. Ici, on est dans l'immédiateté parce que on n'utilise pas un média, on n'utilise pas les mails, les machins pour se voir, on est là en chair et en os. Et c'est des choses comme ça qui permettent un échange et de construire des choses. Donc là, je suis d'accord sur l'immédiateté.
Ok. Madame.
Moi, je n'avais pas entendu immédiateté comme ça. Ouais. Je ne sais pas quel sens exactement tu donnais immédiateté. Mais je comprends ce que tu veux dire dans la critique un peu de l'immédiateté, mais pour des situations où il y a des urgences sociales, où il y a des gens vraiment qui doivent faire entendre leur voix, parce que sinon ils vont mourir de faim, je ne sais pas. Là, l'immédiateté, peut-être qu'elle a sa légitimité. C'est-à-dire qu'il y a peut-être certaines urgences sociales qui font qu'il faut que l'information aille vite. Enfin, je ne sais pas.
Ok, il y avait...
Oui, précisément... Actuellement, il y a donc l'agression des forces turques au Rojava et les médias sont à peu près absentes. Là, je trouve extrêmement grave. Et donc, ça pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? Parce que là, il faut absolument qu'il y ait des manifestations de solidarité. Bon, il y a eu la manifestation l'autre jour, on s'est retrouvé d'ailleurs... devant l'ONU, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un mouvement beaucoup plus large. Et l'obstacle qu'on a, c'est le fait que, vu que les médias n'en parlent pas, les gens ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe. Et je vous donne juste une information pour vous informer. Il y a un site qui s'appelle Roy Info, R-O-I-J-Info, qui donne quasiment tous les jours des informations sur le déroulement de ce qui se passe.
Déjà, je vais dire quelque chose sur ce qu'il a dit sur le Java. Effectivement, la situation est grave. Effectivement, il y a des manifestations. Il y a des manifestations devant l'ONU tous les jours. Cette semaine, il y en a eu tous les jours, après, à part la manifestation dont vous étiez. Ça continuera la semaine prochaine. Les manifestations vont continuer. Il y aura certainement des lapins aussi, et là c'est en débat. Brièvement sur cette situation, je dis ça. Mais ce n'est pas le sujet, donc je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. C'est par rapport à la fabrique du consentement. Moi, il y a une chose qui m'a assez perplexe. C'est qu'est-ce qui fait qu'on est si disposé au consentement? Quelle est cette maladie, cette névrose, cette psychose, et qui fait qu'on est tous comme ça, on a tous intériorisé? Est-ce que c'est du biopolitique, c'est du biopouvoir? Est-ce que c'est l'inconscient collectif? Est-ce que c'est le formatage de notre esprit? Est-ce que c'est une angoisse permanente qu'on n'arrive pas à gérer parce qu'on vit dans un système très libéral, un individualisme très poussé, une angoisse permanente qui est manipulable sans cesse? Je ne sais pas, j'ai du mal à comprendre. C'est quoi? C'est dû à quoi ce consentement auquel on est tous ouverts?
Avant que tu répondes, on laisse peut-être d'autres prendre la parole.
Ça peut m'intéresser d'essayer de répondre à ça.
Ouais.
Aujourd'hui, on est très soumis au regard de l'autre. En Occident, il y a la fameuse expérience de Milgram, où déjà on est des sociétés qui sont hyper obéissantes. On apprend le culte de l'expert dès la naissance, avec apprendre à écouter son père, avec de l'agisme. L'enfant ne sait rien, le père, enfin, les adultes savent, et ils doivent enseigner la bonne parole aux jeunes. Donc beaucoup de systèmes d'agisme avec d'éducation de type apprendre des règles absurdes autoritaires venues d'un droit divin ou d'absolu ou du dictionnaire ou etc. Et il y a très peu d'autotélisme, de capacité à penser par soi-même, à dire je pense ça parce que je suis, et sortir du totisme, de dire Socrate disait ça, donc c'est vrai. Mais qui est-il Socrate pour que Socrate puisse dire ça? Donc ça, c'est le totélisme, la capacité à affirmer soi-même un ressenti, une posture. C'est pas parce que j'ai des... Il y a la fameuse phrase dans le kit d'autodéfense, il y en a une, ça peut être... C'est pas parce que j'ai pas les arguments qui me donnent raison que t'as raison, quoi. Enfin, histoire comme ça. Enfin, il y en aurait deux, trois comme ça que j'ai pas révisé avant de venir. Et il y a aussi le fait qu'on est dans des sociétés aujourd'hui où il y a une complexité qui s'est mise en place, à mon avis, depuis 100, voire 200 ans. Il y a un moment donné, dans notre histoire collective, liée pour moi à l'industrialisation, à la hiérarchisation, à des abstractions qui se sont mises en place. Et à un moment donné, il y a eu quelqu'un où tout le monde, on a commencé à se dire collectivement qu'on ne peut plus tout savoir. Le monde est trop complexe, c'est devenu trop complexe, on ne peut plus tout savoir. Et à partir du moment où on s'est laissé dire ça collectivement, on a baissé les bras face à la complexité. Aujourd'hui, on est dans une longue hémorragie de la complexité. Et c'est plus du tout un sujet. Enfin, il y a complexité et complication. Il faudrait plutôt parler de complication. Mais aujourd'hui, on est complètement débordé et on est soumis constamment au culte de l'expert. On se soumet avec des histoires aussi de mondialisme aussi, que les échelles ont augmenté et nos outils pour appréhender ces nouveaux espaces et la capacité à appréhender ça, on n'a pas acquéri des outils épistémologiques qui sont aptes à pouvoir vraiment exercer sa veille, quoi.
Okay.
Pour moi, il y a plein de mécanismes qui pourraient justifier, ouais, tout ça.
Vous avez l'air d'avoir bien réfléchi à la question déjà, en tout cas. Alors, Amazon.
Je reste quand même perplexe. Pourquoi?
Désabusé, peut-être.
Non, mais je veux dire, c'est pas parce que je suis victime de ceci ou de cela, etc., que je suis dit ceci, cela, que ça peut justifier mes actes méchants. Je veux dire, effectivement, il y a des mécanismes extérieurs, effectivement, il y a un système de pensée analytique, effectivement, il y a une hiérarchie, un système de pensée hiérarchique auquel on est soumis constamment. Effectivement, on est tributaire des illusions, des concepts qu'on construit nous-mêmes. Effectivement, il y a des tas de raisons. Mais il manque un truc. Pourquoi on n'arrive pas à être nous-mêmes? Pourquoi on n'arrive pas à être soi? Parce que quand il s'agit de parler de nos petites libertés individuelles, on est les premiers à dire, mais moi je suis libre, je décide ce que je veux, moi je vis dans une démocratie, etc. On est le premier à vouloir attaquer le prochain, à les massacrer le prochain au nom de la démocratie, au nom de la liberté, du libéralisme, etc. D'un côté, on subit, mais l'autre revers de la médaille, c'est que tout en étant des victimes, on est prêt à tout pour défendre ce système. Ça me fait penser un peu à la conquête de l'Amérique, parce que ceux qui sont allés conquérir l'Amérique, c'était les victimes. C'était pas les riches, etc., etc., c'était les plus dignes, hein. C'était les gens qui ont diminué le plus. Qui diminuent tout, leur socialité, leur humanité, etc. Puis après, pour pouvoir la récupérer, bah, tu les envoies là-bas avec l'espoir qu'ils vont avoir des choses.
Ok.
Bah, on se trouve un peu dans cette situation-là.
Merci. Tu voulais dire quelque chose, Amélie? Bon,
à titre personnel, je pense que si les gens font rien, c'est parce qu'ils sont trop riches en Suisse. Ça, c'est personnel. Mais par exemple, pour parler justement de ça par rapport à tous les mouvements qui se passent dans la fonction publique, justement, où on enlève les subventions, où on privatise tout, etc., ben, on voit bien qu'on n'est pas suivi par les gens. Et pareil, parce que les gens, on leur met un truc à une sauce qui font qu'ils pensent que c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Suivre, c'est aussi prendre des risques, et prendre des risques, c'est pas bon en ce moment, etc., etc. Mais comment on peut faire pour que les gens aient confiance? C'est ça le problème. Si moi j'arrive pas à convaincre quelqu'un que j'ai raison, je veux dire, la faute, elle est que chez moi. mais pas chez les autres. Parce que je n'arrive pas à le convaincre. C'est que je n'ai pas les mots, parce que je n'ai pas réussi à trouver les bons mots qui font que ça tire les gens plutôt que ça les repousse. Moi, quand je parle, en général, les gens, ils se disent « Oulala !» On ne va pas l'écouter, mais il est trop en colère. Voilà. Et donc, je me dis, ben, moi, si je viens là, c'est justement pour trouver des mots qui permettent, moi, à mon niveau, de pouvoir agir, de faire en sorte que, justement, pas forcément utiliser des caméras pour lutter, utiliser d'autres trucs. Voilà, c'est ça, c'est le partage des infos qui fait que... Moi, bon, j'adore venir ici. Parce que c'est toujours les mêmes questions, mais petit à petit, j'ai l'impression d'avancer quand même. Alors peut-être aussi parce que j'ai peut-être un bon psy, mais...
Donc, juste à titre personnel, d'essayer de placer un peu à un autre niveau le débat et les fâcheries. Je pense que les mécanismes de consentement, de domination, etc., ils utilisent qu'il y a de plus naturel chez nous, dans le sens que c'est des mécanismes qui s'appuient à ce qu'on est en tant qu'entité biologique, etc. Et donc c'est à nous, c'est la démarche de l'individualisation, c'est une démarche active qui fait si que nous on sort du consentement, c'est pas le contraire. Donc l'état naturel, c'est l'état grégaire, et quand les choses autour de nous, les sociétés sont des sociétés plus ou moins positives, ben, on est grégaire dans le bon. Et malheureusement, voilà, si on est dans l'univers nazi, on est grégaire dans cet univers-là, si on ne fait pas un acte d'engagement, voilà, ça n'est pas. Ce n'est pas bon.
Oui, ça me rappelle, j'ai entendu à la radio, il parlait du loup, c'était donc des je ne sais pas comment ça s'appelle, les écologues, enfin ceux qui parlent des animaux. Il demandait comment est-ce que on avait fait du loup le chien, comment ça s'était passé, etc. Et en fait, le gars disait, ben voilà, le chien, en fait, c'est un loup qui est resté enfant. C'est-à-dire la domestication, c'est un peu ça. C'est, nous, on est en fait domestiqués, c'est-à-dire qu'on reste à un stade... infantile, donc on a besoin du papa état, voilà. C'est une des explications possibles de notre domestication.
Bon. Juste envie de dire, c'est doux, c'est chaud. C'est doux, c'est chaud, c'est notre société, elle est bien, elle est accueillante, etc. Donc c'est juste, il faut, on a une peur. C'est par exemple actuellement le terrorisme. Mais qu'est-ce qu'on est bien ici? Regardez là-bas, il y a le terrorisme. Regardez tous les dangers qui vous guettent, qui sont autour, etc. Donc, une société aussi pour, sans avoir peut-être de contraintes trop visibles, montre l'autre contrainte, la contrainte qui pourrait être, ou la contrainte, etc. Donc, c'est vrai que, actuellement, et puis bon, c'est aussi vieux hein, fait de nous faire peur, l'insécurité, ce sont des choses qui reviennent très souvent, permettre, ce sont des débats, des thèmes qui permettent aussi de vraiment apaiser, de dire bah oui, on va consentir et on va consentir à cette organisation sociale, parce que bah, y a monsieur, madame, ce serait vraiment pire autrement, parce qu'il y a aussi de ça, peut-être un peu simpliste.
Oui.
J'ai une question, monsieur à lunettes, je suis désolée, je ne connais pas.
Dominique.
Quand tu dis, je pense que rien ne bouge ici parce qu'on est trop riche, donc ça veut dire que tant que la société n'est pas au bord de l'effondrement, on ne peut pas... Mais, c'est un peu triste de dire ça, non ?
Ouais, je sais bien.
Est-ce que c'est vrai, j'entends.
Est-ce que c'est vrai, je sais pas, par exemple, tant que j'ai pas trop d'assiettes dans l'évier, bah, je vais un peu laisser les fourchettes traîner un peu comme ça. Puis quand vraiment, tout d'un coup, j'ai un intérêt, bah, je vais faire quelque chose. C'est un peu toujours comme ça que l'être humain fonctionne. Tant que j'ai pas froid, je vais pas aller couper du bois. Enfin, c'est ce que disait, tant qu'on n'est pas obligé de faire quelque chose, tant que je peux aller skier l'hiver, tant que je peux partir avec un avion l'été, j'ai pas de raison que ça change. C'est un peu ça que je veux dire.
Non, mais l'assiette dans l'évier, elle n'engage pas l'autre, ou la survie de l'autre, ou le bien-être de l'autre, ou la liberté de l'autre. Alors que...
Dépend.
Alors, je sais pas, je veux dire, alors que justement, là, on aurait tout le confort et quelque part la disponibilité pour venir en aide à ceux qui ont besoin.
Le souci, c'est qu'il y a un problème de reliance. On est dans des sociétés hyper déconnectées. Pour moi, c'est lié à la spécialisation des tâches. On a tous été spécialisés dans des jeux hyper poussés, hyper sélectifs, où on n'a plus du tout la big picture. On met de l'isolation dans sa baraque au niveau thermique. On est isolé par le petit mur d'enceinte et puis la pelouse à tondre tous les dimanches. Des occupations comme ça qui nous coupent complètement de tout à chacun. Et on ignore que le voisin à côté, il crève la faim. Que ce soit son voisin à 500 mètres ou celui qui est à l'autre bout du monde. Et avec il y a aussi des abstractions on parle de monnaie. La monnaie, c'est le premier, pour moi, élément qui nous coupe les uns des autres. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas vecteur de l'empathie. Quand tu achètes ton smartphone à Apple au gars qui habite à côté de chez toi, tu n'as pas affaire aux yeux qui l'a produit. Et ça te coupe, ça t'insensibilise, ça te coupe de la réalité. Et on a plein de processus aujourd'hui qui nous coupent des vraies réalités. Et on vit à côté de nos pompes par ces mécanismes-là qui permettent de cultiver le déni. Et le consentement aussi est très en lien avec le fait que tant que tu n'as pas de vraies solutions qui permettraient de régler le problème, c'est quand même mieux le déni, quoi. Et c'est très... On pourrait aussi mettre l'éloge de la fuite pour expliquer pas mal de choses par rapport à cette étape de consentement.
Il y a le monsieur aussi.
Ah, j'ai parlé ici. Ah, ouais. Oui.
Alors, moi, je voulais en revenir un petit peu aux outils. Puis je pense les outils numériques en particulier. Pour moi, c'est des belles opportunités de commencer quelque chose. Et puis surtout, c'est peut-être aussi un modèle... qu'on peut regarder du côté de l'open source, ce qui se produit. C'est des communautés énormes de gens qui ont mis des forces, des intérêts, une volonté pour produire des logiciels. Ils font des choses de super bonne qualité et puis disponibles. Et puis si on regarde un petit peu ce genre de modèle, je pense qu'on peut bien s'en inspirer pour faire un tas d'autres choses et essayer de fonctionner un petit peu sur ces manières de faire et de penser. Et puis, ils développent aussi, bien souvent, on va dire, une lutte aussi contre, bien sûr, ce côté dominant du logiciel propriétaire. Et ouvrent des choses à, justement, des médias qui sont des transmédias, qui permettent, bien sûr, d'apprendre du côté où, de toute façon, on n'apprend pas. Normalement, les journaux ne nous servent pas, la télé ne nous sert pas. Par contre, ce genre de médias, apprend... une autre vérité des choses, une vérité qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc je pense que ce genre d'outils sont super intéressants, on peut bien les exploiter. Et puis il y a plein de notions comme ça qu'on peut développer. Du coup, au travers de ces outils-là, on peut fabriquer nos propres universités et faire participer tout le monde, celui qui sait beaucoup que celui qui sait pas, puis les mettre en confrontation pour... faire ressurgir un autre type de vérité que ce qu'on nous crache tout le temps dans les écoles où on va généralement. Donc du côté de l'éducation, il y a de quoi faire. On peut construire un tas de choses au travers de ces outils.
Excusez-moi, on peut aussi les construire à travers la lecture de livres.
Oui, je pense que...
Ouais. On peut se baser souvent, je sais pas comment c'est fait, mais les universités ouvrières populaires n'avaient pas forcément besoin de...
Ouais. Alors, je pense, je suis d'accord. Ouais, je pense qu'il ne faudrait pas détruire les vieux médias. Il faudrait bien sûr les conserver, mais on peut leur donner aussi une prolongation, une vie supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui écrivent, puis qui font du livre qui est imprimé, puis qui est distribué comme ça, et puis qui permettent à ce livre, par exemple, d'avoir une vie prolongée, une vie partagée aussi. C'est-à-dire que sur Internet, ils laissent les gens faire leurs commentaires et le livre se reconstruit d'année en année avec les propos des gens. Donc ça devient un média évolutif, il est transmédia, il peut passer du papier à la vidéo, de la vidéo au son, et puis tourner comme ça. Puis ensuite, l'idée de partager avec plein d'autres, c'est un peu ça le but. Puis aussi pour l'auteur de recevoir quelque chose qui lui revient de ses lecteurs, pas simplement que le lecteur il a lu son livre. Puis après, il doit aller de proche en proche pour aller dire ce qu'il en pense. Quand il le dit devant tout le monde et tout le monde peut l'entendre. Et ça peut être repris, réutilisé. Ça aide quand même passablement.
Oui, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est à l'aise avec les livres. Hein. Moi, j'ai de la peine avec les livres. C'est, je veux dire, c'est des mauvais souvenirs d'école. Et puis, je dois faire beaucoup d'efforts pour en lire. J'en ai acheté un ou deux ici. Voilà, j'ai quelques livres par année. Alors que sur Internet, c'est vrai qu'on a accès, quand on est dans les bons créneaux, on a accès à énormément d'informations et c'est impressionnant, quoi. Enfin, voilà, moi, j'ai beaucoup résisté à Internet au début, mais maintenant, je trouve que quand même, c'est un lieu où il y a des choses à... Ça m'ouvre plein de choses. Je peux aller chercher de l'information rapidement. Enfin, voilà.
Mais beaucoup de sang. C'est ça qui me dérange.
Du sang?
Oh oui, énormément de sang.
Si tu veux aller chercher du sang, voilà, ça peut être...
Non, mais sur Internet. C'est pas du tout une critique. Non, là, ouais. Je suis vraiment aucune critique. Je suis tout à fait d'accord. On peut avoir vraiment des problèmes avec les livres. Le dialogue est là. Ça, c'est superbe. Non. Quand je disais du sang, c'est les big data. Ce sont toutes les mines
énergétiques, les compteurs, des choses comme ça.
Voilà, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'on fait aussi
pour créer ça?
Voilà. Notre liberté, peut-être, qu'on pense. Alors, c'est vraiment une question. On a peut-être une possibilité de liberté par le site Internet, qui vient à côté avec des objets techniques qui détruisent aussi notre planète, qui nous permettent aussi de détruire notre planète, de la 4G, etc., avec les big data qui consomment d'un point de vue énergétique, quelque chose qui pourrait peut-être, je sais pas, nourrir des populations qui en auraient vraiment besoin, je sais pas. Ça me gêne. Alors, et là, j'ai juste un point d'interrogation.
C'est quoi les big data, s'il te plaît?
C'est toute l'information récoltée.
C'est faire intervenir des algorithmes sur des masses de données immenses pour faire des stratégies pour arriver à des conclusions.
Disons qu'aujourd'hui, c'est les richesses employées par des Google, des Amazon, etc. Ils ramassent tout. Et puis, comme ils savent tout, ils peuvent nous manipuler à nous vendre n'importe quoi. Donc, c'est ce qu'ils font. Ils font beaucoup d'argent avec ça. C'est une richesse énorme, le big data.
Ça dépense beaucoup d'énergie. Donc, si on veut lutter contre, c'est quand même de l'énergie qu'on va gaspiller pour...
c'est ce qu'on donne nous. En fait, on remplit des formulaires, on fait tout le boulot. Et eux, ils l'utilisent de manière, on va dire, totalement automatisée. Donc... Nous, on leur donne cette richesse, c'est-à-dire qu'on se met à poil devant eux. Et puis ensuite, ils l'utilisent et ils font du fric. Et puis, quelle est la conséquence de tout ça? C'est qu'ils écrasent des économies locales ou comme ça, avec des Uber, des trucs comme ça. Donc, on parle souvent d'ubérisation, c'est qu'ils arrivent bien sûr dans un lieu, puis comme ils ont des moyens d'être dans le cloud ou quelque part, ils échappent, on va dire, aux impôts. Ils échappent en bonne partie à l'économie locale. Et qu'est-ce qu'ils vont faire aussi? Ils vont faire baisser les prix, les tirer au plus bas et utiliser, bien sûr, des outils que le simple taxi, lui, il les a pas. Donc, lui, il ne peut pas lutter contre ça. Il est quasiment cuit. À partir de là, si on ne considère pas que nos richesses, on ne doit pas les donner comme ça, puis qu'on pourrait les conserver, c'est pour ça que je dis qu'on a besoin peut-être quand même aussi d'utiliser l'outil numérique, c'est que de toute façon, on l'utilise, tout le monde utilise des emails, tout le monde bazarde ses informations comme ça, du jour au lendemain, ça va être un peu difficile de leur dire maintenant, stop, ouais, il y en a peut-être quelques purs et durs qui n'ont peut-être même pas un téléphone, mais je pense que même ici...
Voilà, si je comprends bien, la discussion autour de la technique, c'est parce que le risque, c'est que pour lutter contre l'endoctrinement, il faudrait, on risque de passer par rajouter un problème de plus qui est fait d'utiliser le numérique.
Ce big data, on pourrait le conserver.
Pardon ?
C'est l'asservissement.
C'est une autre forme d'asservissement, donc on passerait de...
L'asservissement de population, non. Par toi-même, tes informations qui utilisent contre toi. C'est un centre de renseignement.
C'est sûr.
C'est comme quand tu présentes la supercarte, bien sûr, une émission de printemps, c'est à la montrée. Déjà, ça, c'est luminal. Après, ils utilisent ça, etc.
Mais lui, il disait plus à un niveau éthique.
C'est-à-dire que excusez-moi, mais voilà, là, on est dans, je m'en fous, c'est un noir qui est en train de, qui est au fond d'une mine, qui est en train de piocher pour rien, pour que j'ai mon téléphone malin. J'ai un gosse chinois qui est en train de bosser pour mettre des puces, et puis j'ai des machins qui sont en train de racler le fond des océans pour prendre les terres rares. Donc voilà, point d'interrogation. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça?
Déjà, je pense.
J'ai l'impression que c'est un peu quand tu manges des mandarines à Noël. Tu vois, les mandarines, elles viennent de très loin quand tu manges des mandarines à Noël. Sauf que comme c'est Noël, eh ben, c'est important de manger des mandarines à Noël parce que tout le monde mange des mandarines. Donc, ça fait, dans la famille, tout se passe bien. Tu vois. Mais si tu mangeais des mandarines tous les jours, toute l'année, là, il y aurait un problème. J'ai l'impression que les outils, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, s'il faut utiliser un outil qui est un peu plus encombrant à un moment donné, mais il n'y a que celui-là, ben on sait au moins pourquoi on l'utilise. Et puis, il n'y a pas que cet outil. À la limite, là, c'était un exemple, comme tu as dit, c'est des exemples qu'on a pris, presque des images. Mais là, ma difficulté, elle est plus dans ce, comment j'utilise les outils avec tout le monde.
Comment vous avez su de cette soirée de ce soir? Par quel moyen? Vous êtes arrivé comment là?
On va.
Le bouche à oreille.
Je crois qu'il faut faire une différence entre les conséquences au niveau du monde, au niveau économique, etc., tel que le travail des enfants, le travail en Afrique, etc., les conséquences que ça a à ce niveau-là, la technique. Il y a cette dimension de la chose, puis il y a la dimension justement psychologique du consentement, etc., ou par Facebook, ou par l'envoi d'un email, d'un SMS. Et déjà 20 ans en arrière, quand tu envoyais un email, il suffisait, il y avait le logiciel Tracer Boot, je me rappelle pas de toutes les commandes, etc. Et tu faisais ta commande, tu te rendais compte qu'en fait, tous les emails, ils peuvent passer par l'Amérique, c'était Houston ou je sais pas où, je me rappelle plus. En 20 ans en arrière, déjà, on avait ça. Alors imaginez-vous, en 20 ans, tous les développements qu'on a eu. Et sur Facebook, tu vas cliquer sur un lien quelconque et innocent, et tu fais un like ou je sais pas quoi, ou tu publies un photo, mais une photo, tout ça est enregistré. On peut même vous le démontrer, je veux dire, c'est pas facile, vous faites une personne quelconque ici, je peux même savoir juste par votre truc, et j'ai même pas besoin de vous m'accepter comme ami, je peux savoir vous avez liké, etc., vos amis, tu peux les terminer. Déjà moi, si j'arrive à mon niveau, imaginez-vous, vous êtes capable.
C'est vrai que l'utilisation de l'outil, c'est quand même une question importante.
Ça, justement, ça permet de fabriquer justement ce consentement. Parce que c'est dans ce outil-là.
Mais par rapport à la manipulation de l'opinion publique et tout, il y a effectivement les recherches sur Internet, mais il y a aussi d'aller sur place pour avoir des situations. Et là, il y a souvent des reporters qui prennent des très grands risques pour apporter des éléments très intéressants. Heureusement qu'ils passent de temps en temps dans les médias, mais des fois, je veux faire le lien avec justement Noam Chomsky. C'est que lui, il n'a pas toujours été sur place. Alors dans ses déclarations, par exemple, par rapport à la Bosnie-Herzégovine, il ne connaît pas la situation sur place. Et par exemple, il nie le génocide de Srebrenica en disant, oui, si un génocide de 8000 personnes est reconnu, il faudrait qu'il y ait... en fait, il ne reconnaît pas, mais en fait, il faudrait voir la question dans l'autre sens, de reconnaître, en fait, tous les génocides. Et là, il y a donc une convention internationale de 47 qui a été adoptée par l'ONU et qui est effectivement rarement appliquée. Mais là, le problème, c'est que Noam Chomsky aussi par critique du pouvoir américain. Il n'est pas neutre parce qu'en fait, il faut pouvoir critiquer tous les impérialismes, grands et petits. Et puis là, il se trouve qu'il est membre, par exemple, de l'Académie des sciences de Belgrade, qui était justement un peu le groupe intellectuel derrière Milosevic, précisément les manipulations. Et là, on avait essayé, quand il était venu à Genève, d'aborder la question, mais on n'a pas pu. Et ça serait intéressant, s'il serait possible, peut-être, d'avoir un retour à ce sujet, quoi, parce qu'il y a quand même des choses à mettre au point. Mais ça veut dire que, évidemment, je dirais globalement, il a un rôle très positif, mais il ne faut pas en faire une idole. Quoi. Donc, tout croire.
Ceux qui ne sont pas encore exprimés, c'est l'occasion. Enfin, oui.
Moi, je rebondirais sur ce que Marc disait par rapport au logiciel open source. Et je dirais que, donc, en comparaison avec le livre, qui est une logique plus ou moins linéaire, où on sait où ça commence, où ça finit et de quelle manière il faut le lire, un logiciel que l'on apprend à apprivoiser, à utiliser, un logiciel que l'on crée soi-même, peut agir comme une métaphore, comme une image qui nous permet de comprendre, de créer des interactions et de les designer, de les concevoir soi-même. Et de ne pas être seulement un usager de quelque chose, d'une logique d'interaction, d'un type de récit déterminé, mais de tout simplement être capable de manier ça et d'imaginer de quelles autres manières on peut le manier. Et si c'est utilisé comme un outil d'échange d'informations, comme à la manière de Facebook ou autre, d'imaginer de ne pas être un utilisateur de l'outil d'un tiers, ça peut être vraiment révolutionnaire dans notre manière de nous visualiser et d'interagir.
Pour moi, il y a une conscience, enfin une pensée liée aux technologies qui est absente aujourd'hui. Les technologies, enfin un outil, c'est jamais neutre, contrairement à ce qu'on entend. Il va dépendre de l'intention et de la façon dont il a été fait par celui qui l'a fait. Et donc, pour moi, il y a une nuance très, très claire à prendre en compte, c'est les outils. Il y a la distinction centralisée, décentralisée, distribuée. Donc ça, c'est une première ligne de dissociation pour comprendre tout ça. Ce que j'aurais aimé ici ce soir, c'est qu'on sorte de l'immédiateté justement avec de la parole et puis qu'on fasse des cartes et puis un peu plus du froid, du média froid pour vraiment poser la réflexion. Parce que sinon, on est toujours dans le flux chaud et on passe d'une idée à l'autre et on n'a pas le temps de creuser. Et c'est ça qui bifurque la tension à longueur de journée et c'est ça qui nous noie aujourd'hui, à mon sens. Donc, ça aurait été à la fois d'écrire et faire une carte propre. Pour essayer de vraiment investiguer bien, et puis peut-être la brûler à la fin, parce que le problème du livre, là on a parlé du numérique et du livre, le problème du livre c'est que c'est bourré de fautes souvent, t'as des types, le problème c'est que historiquement il y avait la Bible, les types écrivaient la Bible, ensuite il y a eu des scripts, les scribes ils répliquaient essentiellement la Bible parce que ça les arrangeait, et puis c'était les religieux qui avaient l'étude ou je sais pas quoi. Après, il y a Nuremberg. Si on a une lecture de mauvaise foi. Après, il y a Nuremberg qui arrive, il imprime des livres. Et puis après, les gens, à force de lire deux, trois conneries, ils se sont dit, mais merde, nous, on va enfin, du coup, le livre baisse en prix parce que tout le monde peut s'acquérir. Du coup, les gens apprennent à lire. Du coup, à force de lire, ils se disent, bon, il y en a marre d'apprendre de lire des conneries, nous on va écrire nos livres. Et puis tout le monde s'est mis à écrire des livres, mais on a toujours la même capacité à lire des livres, c'est-à-dire un par jour à tout casser. Enfin, moi j'en suis à 10 depuis que j'ai 30 ans, donc ça fait pas beaucoup, moi je suis pas un grand lecteur. Mais du coup, l'infobésité, elle a commencé déjà avec le livre en fait. Et le livre est bourré d'erreurs. Donc il y a vraiment la tradition orale qui est intéressant. Alors du coup, le numérique permet de corriger, d'avoir un support qui soit froid, dynamique, où on peut corriger les erreurs. Mais pour l'instant, on n'est pas au point. On est pour l'instant noyé dans l'infobésité encore plus. Et okay. Je me suis perdu.
Ouais. Mais moi, je me permettrais de revenir vers vous. Mais il y a Daniel.
Oui, c'est bon. Je
voulais aussi intervenir par rapport à la technique. Effectivement, je pense que l'intentionnalité au départ d'une technique, elle est importante. Dans sa conception, le numérique, il a été conçu d'une certaine façon, sur une approche binaire 0-1, alors qu'il aurait pu très bien y avoir un autre numérique sur un autre système. Voilà, il a déjà été formaté par ça. De même que le livre, effectivement, l'arrivée du livre, c'est l'arrivée d'une technique qui, au départ, c'est une technique de propagande, c'est une technique de formatage, etc. Après, comme je disais tout à l'heure, il y a le détournement. C'est-à-dire, on commence à... Voilà, ça, à partir de l'imprimerie aussi, il y a des mouvements de révolte, des gens qui commencent à imprimer, à traduire la Bible, etc. Enfin, c'est-à-dire chaque technique qui arrive, elle a une intentionnalité qui est forcément mauvaise au départ, puisqu'elle est aux mains des dominants. Et au fur et à mesure, elle est détournée et utilisée à contrario. Et elle est abandonnée pour une nouvelle technique disruptive, parce qu'au bout d'un moment, elle est plus intéressante pour les dominants. Donc c'est un peu. Voilà, donc c'est pas pour ou contre la technique, c'est de toute façon les dominants nous imposent les techniques, nous imposent les. Et après ils nous disent, ben, voilà, vous désirez ce qu'on vous donne. Parce qu'on n'a pas le choix, de toute façon. On est obligé de désirer le dernier machin iPhone, truc, parce que enfin, moi, je ne l'ai pas, mais pour beaucoup, ça devient un outil indispensable.
C'est qu'est-ce qu'on en fait aussi.
Oui.
Dans quel but
Allez-y.
J'ai l'impression qu'on parle beaucoup des outils, ouais. En fait. Et puis en fait, il y a des contenus qui sont bien dans les livres, qui sont bien sur Internet, il y a des contenus qui sont nuls dans les livres, sur Internet aussi. Et puis pour finir, on parle tout du consentement. Puis,
ouais, on s'est perdu un peu de.
C'est bizarre. Puis, en même temps, moi, ça m'a fait la petite séquence sur justement au Brésil. Moi, je n'ai pas compris non plus que c'était grâce à leur téléphone qu'ils avaient eu gain de cause, en fait, les éboueurs. J'avais plutôt l'impression que c'est parce qu'ils avaient choisi de faire ça pendant le carnaval, en fait. Donc, je ne sais pas, enfin, on n'en sait rien, mais enfin, peut-être qu'après, je n'ai pas vu tout le film.
Mais... Non, mais il y avait le nombre, c'était beaucoup, beaucoup de manifestations avec énormément de personnes, c'est tout ça.
Oui, ouais. Donc c'est pas, peut-être pas la technique.
En fait,
pas,
mais en même temps, moi ça m'a aussi un peu.
C'est vrai qu'il y a l'impression qu'on fuit le problème.
Oui, on est beaucoup parti sur les questions techniques, alors on fuit le problème. Alors le problème, c'est le consentement. Et puis voilà, c'est le sujet. Le sujet, c'est le consentement.
Oui. Je veux dire quelque chose.
Oui, oui.
Moi, je ne sais pas, je me pose une question, c'est pourquoi s'intéresser autant au pourquoi. Parce que sur les pourquoi, il y a plein de choses sur la table. Moi, je me suis avalé des milliers de pages de Chomsky, j'adore ça. Ce n'est pas un idole, hein. il se présente surtout pas comme ça. Et il dit des choses absolument intéressantes qui expliquent des tas de choses. Donc sur le pourquoi, il y a de quoi s'abreuver, là, ailleurs aussi, hein. Il y a plein de trucs. Sur la question des outils, Gutenberg a inventé un moyen qui est formidable, qui est l'imprimerie, pour qu'on puisse lire la Bible, n'est-ce pas ? Heureusement qu'après, ça a permis aussi de lire le Capital de Karl Marx, de lire les écrits de Bakounine, et puis que ça a servi à Célestin Freinet pour faire que les élèves se mettent à produire des choses, etc., etc. Donc, les outils peuvent être, comme dit si bien Daniel, détournés pour nous servir à nous. Chomsky, il est présent aujourd'hui largement à travers ses écrits, mais encore beaucoup, beaucoup plus à travers Internet, parce que c'est quelqu'un qui est connu. Et maintenant, plus personne, si on veut un petit peu savoir ce que c'est que l'anarchisme, on fait YouTube et on a tout ce que peut raconter, notamment et de façon très, très appropriée, très intelligente, Chomsky, sur cette affaire-là. C'est très, très, très intéressant. Donc si on veut des pourquoi des explications, etc. On a largement de quoi s'abreuver. Alors, pourquoi s'intéresser autant au pourquoi ? Parce que finalement, je ne suis pas sûr que le pourquoi permette de changer le monde. Un autre barbu, là, ce n'était pas tout à fait le nôtre, c'est plutôt Bakounine, mais disait les philosophes ont assez analysé le monde, maintenant il s'agit de le changer. Et alors moi, je m'intéresse moins au pourquoi que comment. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut... Enfin, l'idée de ce soir, c'est quand même ça. Les outils pour le déminage intellectuel, pour tout ce que vous voudrez, c'est comment est-ce qu'on peut, nous, avec les moyens limités qui sont les nôtres, essayer de faire quelque chose pour changer, ne serait-ce qu'un petit peu, ces réalités qui nous empoisonnent. C'est ça la question. Le bout de film, moi, j'aimerais bien vous le montrer en entier, parce qu'effectivement, le petit bout que j'ai montré ce soir, c'est 5 minutes, ça ne permet pas de bien comprendre ce que font ces gens, ce qu'ils font en Hong Kong, ce qu'ils font en Palestine et au Mexique. Ils utilisent des moyens qui permettent des mobilisations comme on n'a jamais réussi avant. Moi, ce que je veux, c'est la mobilisation des gens. Ce que je veux, c'est que les choses changent et qu'elles aillent dans le bon sens. Mais je suis d'accord sur le danger des outils, sur le fait qu'il y a des gens qui s'empoisonnent, etc. etc. Je suis d'accord là-dessus. C'est un dilemme. D'accord. Et comme toi, je dirais, j'ai une question qui me touche gravement. Mais la question principale pour moi, ce n'est pas le pourquoi, c'est le comment. Comment est-ce qu'on peut, nous, ici, à Genève, dans ce quartier, ou dans cet environnement, avec les moyens que nous avons, essayer de faire bouger les lignes.
Voilà. Alors, allons peut-être dans ces directions. Oui.
Ouais. Alors, bon, voilà, moi, je fais un peu de permaculture, et puis j'essaye de m'imprégner de certains principes puis qui sont, pour nos sociétés, on cherche à regarder ce qui se passe dans la nature, parce que la nature, ça fait des millions d'années qu'elle fonctionne d'une manière extrêmement efficace et qu'elle ne demande rien à personne pour y arriver. Par mimétisme ou par toute autre forme de possibilité de voir comment elle fonctionne, on peut s'inspirer passablement de choses pour les intégrer dans nos manières de nous comporter entre nous, de nous respecter nous, mais de respecter la nature, la planète et tout ça. Donc voilà, il y a trois grands slogans dans la permaculture, c'est respecter la Terre, respecter l'humain et partager équitablement ce qui est créé les richesses. plus concrètement, on voit qu'aujourd'hui il y a des choses qui vont beaucoup qui vont pas mal dans ces directions-là, c'est-à-dire que dans certains quartiers, dans certaines villes, ils ont utilisé ces principes pour améliorer certaines choses, même dans l'industrie. Je pense qu'on doit considérer qu'une société qui veut fonctionner bien, elle doit fonctionner bien aussi bien économiquement que socialement parlant pour qu'il n'y ait pas de tensions importantes. À partir de là, on a vu aussi dans l'économie des choses se faire dans des zones industrielles, par exemple, où ils ont commencé à réfléchir côté traitement des déchets, gestion de l'énergie, etc. Pourquoi on se réunirait pas pour discuter des choses et des industries qui n'avaient rien à voir parce qu'elles étaient l'une à côté de l'autre, mais ne se parlaient pas parce qu'elles n'étaient pas dans le même créneau, elles échangeaient absolument rien. On commençait à réfléchir sur comment gérer l'énergie au sein de cette grosse zone industrielle. Ils ont réussi, avec assez peu d'efforts, à faire des économies de plus de 30% en très peu de temps d'énergie, parce qu'ils ont mis en commun, c'est la mise en commun de choses qui ont permis de faire ces choses-là. Dans la forêt, c'est pareil. Au début, on n'a pas tout de suite une forêt. On a des plantes qui apparaissent, puis ensuite, il y a une stabilité, une résilience, puis après, elle peut s'étendre. Et c'est comme ça qu'elle communique aussi.
Ok, ça c'est une piste. Ouais. Nous, par exemple, vas-y, Daniel. Ouais, moi, ce que j'allais dire, une des façons que nous, on a essayé justement d'améliorer, de changer les choses, c'est de se réunir dans des soirées comme ça pour essayer de réfléchir différemment. C'est une piste qu'on a trouvée, nous, qui vaut ce qui vaut. Mais voilà, c'est un début. Il y a la permaculture, il y a le fait de se rencontrer. Il y a sans doute plein d'autres manières aussi d'essayer de lutter contre ce formatage. Daniel ?
Oui, pour moi, en fait, on est dans un système système où un système capitaliste donc qui donc où la loi c'est le profit donc et qui rend les individus isolés et dépossède de leur capacité de décider de leur propre vie, etc. Donc, comment redonner de l'autonomie individuelle et collective? Pour moi, c'est ça la question. Donc, le problème, il n'est pas le même en ville et à la campagne. Là aussi, en ville, il y a 3 jours d'autonomie. Si y a un mouvement... Tu parlais de mobilisation, etc., pour changer les choses. Si une ville se mobilise pour changer les choses, au bout de 3 jours, il n'y a plus rien à bouffer.
Si la campagne se mobilise, tu dis.
Si dans une ville, il y a un mouvement qui se mobilise énorme, qui fait basculer, qui fait changer les lignes, comme tu le disais, au bout de 3 jours, il n'y a plus rien à bouffer. Parce qu'elle est... Elle est tout de suite isolée, et puis ça devient Alep, ça devient je veux dire, donc le problème, c'est l'autonomie collective. Changer les choses, tu disais, on s'interroge trop sur le pourquoi et pas assez sur le comment, mais le comment est déterminé aussi par le pourquoi et par une analyse aussi des conditions. Mais bon, le problème, pour moi, c'est donc l'autonomie collective. Et donc, il y a 1000 façons d'aller dans le sens d'une autonomisation. Il faut se donner, il faut faire un peu l'accumulation primitive. Il y a l'accumulation primitive du capital qui se passe en permanence par l'exploitation des
travailleurs,
de la terre, des humains, des animaux, de tout. Donc cette accumulation des femmes, tous ces mécanismes de domination créent en permanence une accumulation primitive du capital. Et moi, je pense qu'il faut que nous, collectivement et individuellement, on développe l'accumulation primitive des moyens d'autonomie.
Voilà, c'est... Alex,
enfin bon, mon souci, je ne sais pas alors si c'est partagé, mais c'est sur des choses très très précises. Par exemple, aujourd'hui, le service public est en train d'aller se faire foutre. Et on fait croire aux gens qu'on ne peut plus aujourd'hui dépenser des sous pour s'occuper de la santé des gens, du bien-être des gens, parce que nous n'avons plus de ressources, d'accord? Parce que ça coûte trop cher, donc il faut réduire les dépenses. Ce n'est pas vrai. C'est les entrées qu'il n'y a plus, parce qu'on fait des cadeaux fiscaux aux riches. Hein? Et la plupart des gens n'ont pas compris ça, parce qu'on fait en sorte qu'ils soient suffisamment informés de la mauvaise manière pour qu'ils pensent que c'est vrai, on ne peut plus aujourd'hui dépenser, on ne peut plus soigner les gens. Donc on va décider aux HUG qu'il y a un vieux monsieur, on ne va plus l'opérer parce que, ma foi, voilà, il est trop vieux, on n'a plus de sous. On va laisser crever, d'accord? Et on dit, oui, mais c'est normal, nous ne pourrons plus aujourd'hui. C'est Thatcher qui a commencé avec ça. Il n'y a pas d'alternative, c'est comme ça, d'accord? Et c'est pas vrai, c'est pas qu'il y a pas qu'il faut réduire les dépenses, il faut augmenter les recettes. Alors, on n'arrête pas de faire. Alors comment est-ce qu'on fait pour propager l'idée, hein? Propaganda, ça veut dire propager, hein? Ce qui est à propager. Comment est-ce qu'on peut propager des autres informations qui font réfléchir les gens et qui tout à coup les fait douter que ce qu'on est en train de leur faire croire, c'est un sombre mensonge qui finalement joue contre eux, joue contre nous, contre la santé des gens, contre le bien-être des gens. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire passer cette idée-là? C'est des choses comme ça sur lesquelles je pense qu'on pourrait s'atteler. Après, tout ce que vous dites là, c'est intéressant, mais sur cette chose très précise qui nous emmerde au quotidien, hein, moi je travaille dans le social, on est vachement emmerdé. Parce qu'on est en train de tout nous couper, on coupe, on coupe, on coupe, et il y a des gens qui souffrent, il y a des gens dans la rue, il y a des gens qui sont dans la merde. Comment est-ce qu'on fait pour inverser cette vapeur-là, qui fait qu'on laisse faire tout ce massacre-là, parce qu'on trouve que c'est normal, c'est dans l'ordre naturel des choses. D'accord. Cette naturalisation de l'horreur,
comment est-ce qu'on peut inverser cette vapeur-là, très concrètement. C'est urgent.
Juste une chose, c'est que nous n'avons peut-être pas fait notre job avant, c'est-à-dire que dans un débat, il y a toujours un début, une fin. J'ai oublié de préciser que l'idée aussi, c'est peut-être que vous avez envie de rentrer chez vous tout à l'heure. Donc, moi, je propose qu'on continue le débat pendant encore une demi-heure, si vous êtes d'accord. On arrête à 9h moins quart. Donc, c'est juste pour vous dire que si vous avez envie, des choses à dire, c'est le moment de les dire.
10h moins quart.
À 10h moins quart, merci. Si vous avez des choses à dire, c'est le moment de le faire, parce qu'on va s'arrêter dans une demi-heure. Voilà.
Donc, juste pour répondre à ce que tu disais, comment faire pour inverser, je veux dire, pour moi, c'est il y a effectivement à faire circuler l'information qui n'est pas donnée. Après, c'est par quel canot ou comment, mais c'est... Moi, souvent, quand j'apprends des choses, je me dis, tiens, mais ça, je ne savais pas, et je me dis, mais voilà, c'est comment... Enfin, faire circuler l'information qui... l'information qui est occultée, quoi.
Oui.
Oui.
Juste une question, là, c'est encore. Parler de travailleurs sociaux, etc. Et qu'en est-il de l'État? Où est-ce qu'on en est, par exemple, en tant que quelqu'un qui va travailler pour le service public et qui va travailler pour l'État? Pour qui je travaille, comment je travaille, quelle est ma conception? Voilà, c'est une question. Il y a, si on peut reprendre les termes d'Accardo, que j'aime bien, parce que moi aussi, je travaille pour le service public, et parfois je me dis, mais purée, je suis un agent dominé de la domination. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Moi, je pense qu'on en est un peu tous là, parce
oui,
que...
voilà.
même dans le privé.
Ouais, donc, mais oui, ouais. C'est quoi le terme qu'on va dire?
Tu serais pas là, quoi.
Oui, parce qu'on a tous un patron, ou un, voilà, mais...
Contradiction, on est tous pris dans des contradictions, les uns les autres. Enfin, en tout cas, moi, je me sens tout le temps pris dans des contradictions. Il faut défendre l'État, puis en même temps, on vise l'abolition de l'État, l'autonomie des gens, c'était... Voilà. Daniel
Pour revenir sur le problème, oui, il suffit de donner la bonne... de la bonne information, etc. Moi, je pense qu'il y a le problème de l'unité d'action. C'est-à-dire qu'on est tous décalés par rapport à notre prise de conscience, pas en même temps, tac-tac. C'est-à-dire, tous, on a des bonnes idées, etc., mais pas en même temps. C'est-à-dire, ça ne prend pas au même moment, et donc, il y a et je pense que ça, c'est aussi calculé par le... Enfin, comme je sais pas, Chomsky, en gros, c'est pas qu'il y ait une volonté, un groupe qui est de fin de temps qui a décidé, là on va essayer de... Mais je pense quand même qu'il y a des groupes de discussion, des groupes de brainstorming, etc., qui ont mis en place un truc à un moment après 68, par exemple, ou dans les années 70-70, et qui ont dit comment éviter des événements comme 68 où tout d'un coup tu as une unité d'action. C'est-à-dire des prises de conscience comme ça qui se convergent et qui font qu'il y a un mouvement social qui déborde. Donc je pense qu'il y a, il y a des techniques d'urbanisme, des techniques de gouvernement, des techniques de managing, etc., qui font que la réalité elle est telle qu'elle est. Moi je suis un peu dans la théorie du complot, mais pas. Je pense que c'est à la fois diffus et puis à la fois construit quand même.
Voilà, bon, je suis assez partie prenante de ce que tu dis. Et ce que je me dis, c'est que c'est vrai qu'on est assez neuf comme groupe qui rentre en discussion et puis que forcément, faut reprendre beaucoup d'années... d'expérimentation, de bouquins lus, etc., pour faire une synthèse de tout ça, c'est compliqué. Là, dernièrement, j'ai lu un livre qui est d'Isabelle Delannoy, qui s'appelle « L'économie symbiotique ». Puis elle aussi, elle a mis 30 ans à faire son livre. Puis elle regroupe vraiment plein d'informations super intéressantes. Là, il y a des pistes à aller chercher, parce que c'est super sympa. Puis on voit dans ce bouquin plein d'endroits qui ont mis en place toute forme de système apte à les faire avancer, à changer quelque chose, à opérer des transitions. Donc que ce soit des systèmes de gouvernance, que ce soit des prises de bâtiments pour avoir des lieux alternatifs, et puis développer des idées. En France, ils sont vachement en avance sur nous, sur plein de choses dans ce domaine-là. Et puis, ben, juste pour finir, ben, pour vous dire, je suis en train de développer avec une équipe. Enfin, c'est pas moi qui ai lancé cette idée, mais avec une équipe d'amis, on développe un jeu qui s'appelle 36 photos, qui est fait pour justement faire de la reliance entre les personnes. C'est un concept relativement simple. Il suffit de poster une photo puis d'y mettre un commentaire. Ça se joue localement comme un jeu. Et à partir de là, le premier qui a mis une photo, il lance un questionnement. Puis à partir du questionnement, ben, ça lance des rebondissements chez d'autres, etc. On peut traverser toute forme d'idées, c'est-à-dire qu'on peut rester sur un plan historique, ou bien après tout à coup se pose une question. Par exemple, si je prends une photo d'une fontaine puis que c'est marqué eau non potable, pourquoi cette eau est non potable? Donc c'est un premier questionnement. Donc je vais questionner d'autres pour savoir ce qu'ils en savent. Puis après, ils vont m'envoyer quelque chose. Puis au bout d'un moment, ben, on traduit ça pour l'amener gentiment vers une mission de jeu. Une mission de jeu, c'est quoi? C'est un projet. C'est-à-dire, quelqu'un va dire, ouais, mais pourquoi... Pardon? Alors, il y a la partie, bien sûr. Ça, c'est un espace. Alors, Non. C'est... Après, ça ne se termine pas là. Après, d'un espace numérique, on vient, bien sûr, à se voir physiquement. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu as une mission qui devient elle devient réelle, tu es obligé de te voir dans la vraie vie. Donc, au bout d'un moment, tu ne restes pas scotché dans ton machin. Tu vas générer des petits groupes de personnes. Ce n'est pas une seule photo que tu vas traiter. C'est tout un paquet de photos. Puis chaque fois... tu auras des gens qui seront d'accord ensuite peut-être d'aller voir en groupe le maire pour discuter de ce problème-là ou de lancer n'importe quelle action. Et du coup, quand ils lancent une action, ils vont devoir se retrouver. Donc on ne fait pas qu'un espace de coworking numérique, on fait aussi des espaces physiques. Ça fait partie du jeu. Et puis le jeu va se transformer petit à petit en jeu de tableau, c'est-à-dire qu'on pourra le jouer sur la table avec des cartes, des pions, des bâtons. Donc voilà.
Alors c'est... Bah, mais c'est ça, c'est ouais. L'imagination des outils, c'est-à-dire que n'oubliez pas que dans 50 ans, la moitié des métiers qui existeront n'existent pas encore.
Bon, après, il y a toute une panoplie de choses qui se greffent là-dessus, mais on peut faire une fois un atelier sur ça. Oui.
Et ça, tu pourras venir nous le présenter une
oui.
fois. Hein.
Oui, alors avec plaisir. C'est... Ouais. Ouais.
Ok.
Ça s'appelle, alors le jeu en lui-même s'appelle La Révolution du Sourire. Ça fonctionne avec un modèle qui s'appelle 36 photos. Et c'est le côté extrêmement simple d'usage. Il n'y a pas de complications. Ce n'est pas un truc avec des règles farfelues, compliquées. Tout de suite, on comprend ça tout de suite facilement. On peut l'intégrer très facilement. Ouais. Donc là, pour le moment, là, on est en train de fabriquer la plateforme au niveau numérique. Elle est quasi fonctionnelle. Enfin, elle est fonctionnelle à trois quarts déjà à peu près. Et puis voilà, après toutes les informations sont traitées, taguées, c'est-à-dire chaque commentaire va dans des systèmes de tagage qui permet ensuite de faire une synthèse de cette information.
Vous donc, informez sur quoi voilà, c'est en train de construire en fait.
Alors ouais, enfin en fait c'est déjà construit, et c'est, on va dire d'un point de vue théorique et les modèles sont fonctionnels. Alors ouais, on est en train de jouer entre nous pour l'éprouver. Et puis ouais, d'ici.
Vous allez lancer le premier sujet, enfin comment?
Alors non, enfin si tu veux, après dans tout le concept, après tout à l'heure je parlais de la nécessité de s'approprier soi-même les outils. Donc on est bien obligé de créer un outil de départ parce que normalement dans notre concept.
Non, ça dépend des groupes.
Alors,
ça dépend de ce qui va sortir. Tu sais pas ce qui va sortir.
Voilà, on n'en sait rien parce que n'importe qui peut traiter de n'importe quel sujet. On n'a pas de tabou, on n'a pas. Et on parlait de big data. L'idée, c'est de se réapproprier le big data. C'est-à-dire, pourquoi j'irais donner à Facebook tout mon curriculum et mon machin, et puis que je me mets à poil devant tout le monde sait ce que je fais. Si je le fais, j'aimerais qu'on me donne quelque chose en retour. Et ben là. si on joue dans le jeu, ok, je me mets à poil parce que c'est aussi l'idée, je me mets autant à poil d'un côté que de l'autre, mais cette transparence, elle va m'être utile parce que je vais participer aux richesses qui sont produites directement. Je la fournis plus à quelqu'un qui va me la voler, je la donne à la collectivité, la collectivité fait un commun et me restitue, me rémunère. Il y a un système de rémunération au travers d'une matrice de richesse. Et là,
C'est la permaculture intellectuelle.
Tu l'appelles comme tu veux. Non, là-dedans, il y a des années de théorie, tous les bouquins, les machins, les trucs, ça, voilà, c'est un condensé de tout ça. Puis ensuite, ça a été repensé pour faire de la reliance avec l'ultime but de faire ça.
Je reviens aussi sur ton idée, Ricardo, de faire des ateliers. Si tu veux nous dire quelques mots de plus là-dessus.
Oui, enfin, c'est une proposition d'avoir faire un essai, là, comme tu dis, c'est bien de faire, d'expérimenter avant de lancer des choses, mais d'avoir une soirée ou l'autre, on essaierait de faire un atelier sur une mise en chantier de quelque chose à faire pour essayer de changer un petit peu cette fabrication du consentement. Et de faire ce qu'on appelle la contre-information ou quelque chose qui pourrait permettre de donner le contre-pied à ce genre de phénomène. Hein. Voilà. Peut-être que ça pourrait commencer par le visionnement de ce film dont on a vu un bout ce soir, qui est intéressant parce qu'il se passe des choses absolument épatantes qui sont faites avec des moyens assez restreint et un petit peu à la portée de tout le monde. Voilà. C'est un peu... Dans le temps, par exemple, on avait les graffitis, les affiches, tout ça. On a une loi liberticide à Genève qui fait que maintenant, on peut avoir facilement 7000 francs d'amende si on s'amuse à placarder quelque chose en dehors des espaces consentis. Bon, voilà. Alors, il faut trouver autre chose. Parce que l'affiche était quand même... un moyen formidable, je sais pas, en 68, le profil de Gaulle avec la chie en lit, c'est lui, ça traversait beaucoup d'esprits, c'est encore présent, hein. C'est quelque chose qui est très fort, et faire une chose aussi simple que ça, c'est pas évident, hein. faut être créatif, faut être tout ça, mais une fois qu'on l'a fait, les gens ont fait un chablon et l'ont reproduit un petit peu partout. Des choses comme ça, c'est... c'est faire bouger les lignes avec des petits moyens. C'est un peu ça le chantier que je propose. Parce que les gros moyens, c'est difficile à mettre en œuvre. Ils ne sont pas déportés. Alors que peut-être il y a des choses... Moi, j'ai quelques petites idées. Mais bon, voilà, ce serait intéressant qu'on se voit, ceux qui seraient intéressés pour un chantier comme ça. Voilà, pour mettre ensemble des petites idées, pour faire des petites choses qui peuvent avoir peut-être quelques grands retentissements.
Tu laisses le suspect. Hein.
Oui, parce que si... Ouais,
après, le but, il est quand même...
On est parti pour 2 heures, puis moi, je suis fatigué, je crois que je vais rentrer.
Le but, il est quand même de profiter du plus grand nombre. C'est-à-dire que si on est tous là, c'est peut-être parce qu'on a des bonnes raisons d'être là, ou à moins qu'on s'ennuie, peut-être le vendredi soir. C'est possible à Genève. Mais, je veux dire... Autant qu'on soit la majorité, si on veut que l'effet soit le plus grand, autant qu'on soit le plus grand nombre. Parce que si on fait un atelier qui finalement intéresse que la moitié ou un quart des gens, donc peut-être faire un atelier pour savoir quel atelier on aurait envie de faire.
Je sais pas.
Non, je dis pas que ton idée est pas bonne. Moi, par exemple, je pensais les assurances maladie. Si tout d'un coup, on dit à tout le monde de le mettre sur un compte bloqué quand on paye l'assurance maladie, personne touche cet argent. Si tous les Genevois font ça, ou s'il y a 50 000 ou 400 Genevois d'un coup le soir, avec plein de journalistes, évidemment, une fin de mois qui fait ça, les assurances maladie, elles pleurent, quoi. Elles pleurent. C'est-à-dire, t'imagines, 400 fois 500 balles d'un coup, quoi. Et sur un compte bloqué, donc ils ne peuvent pas nous accuser de ne pas avoir payé.
Hein, ça, c'est trop gros.
Ouais, c'est petit. Trop gros, c'est trop petit. Attends, tu trouves que c'est trop gros, quoi.
C'est trop tôt.
C'est trop tôt. Ça arrive.
Pendant la résistance dans le nord de l'Italie, entre 1943 et 1945, les ouvriers mettaient des minuscules grains de sable dans certains engrenages. Mais il fallait savoir dans quel engrenage. Un petit grain de sable, et ça bloquait la machine qui produisait des armes ou des choses comme ça, tu vois. Ça peut être grain de sable. Mais si on sait le mettre au bon endroit.
Donc on fait atelier grain de sable.
Oui. Hein? Oui, voilà. Ça, c'est, tu vois, c'est le premier pas. On a déjà un titre, c'est pas mal. Intéressant. Parce que petit, c'est possible. Tu vois. Gros, on se retrouve devant un immense mur et puis après on tombe dans la déprime et l'impuissance. C'est pas bon, ça, pour le moral.
Ok, tu parles de. Oui.
Moi, j'aurais une question pour les parents étrangers. On me pose des questions parfois sur la question des assurances. À quel moment et comment cela est devenu possible que l'État légifère pour que l'on doit payer une assurance à des courtiers d'assurance privés? C'est pas le capitalisme d'État, ça.
Je sais pas. Qu'une idée.
Oui, il n'y a pas d'assurance.
Capitalisme d'État, pour moi, c'est un peu.
Il n'y a pas d'assurance publique.
Mais ça, on ne le nomme pas comme ça.
Non, mais c'est obligé, mais à part ça, j'ai pensé, on peut prendre une assurance maladie en France.
La forme qui change.
Ouais, pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle soit en Suisse? Parce qu'en France, je suis sûr qu'elle est moins chère, l'assurance maladie.
Non, mais ça n'existe pas.
Hein?
C'est fini.
Et c'est l'atelier pour l'année prochaine.
C'est vrai? 500 balles?
Par contre, tu peux faire ta caisse, ta propre caisse.
Ok. Moi, je vais rester très concret, parce que je crois que là, on arrive au bout de cette séance. Il y a une proposition, enfin, il y a plusieurs propositions, mais il y en a une là. Est-ce qu'il y a des personnes qui seraient d'accord de se revoir dans un prochain vendredi soir ici pour travailler, on ne sait pas très bien, mais sur quelque chose, un sort de grain de sable.
Oui, puis quelque chose qui devienne plus concret.
Et quelque chose qui devient plus concret.
Ouais. Donc, moi, je dirais même, est-ce que tout le monde est d'accord, est d'accord de se revoir pour finir cette discussion?
Parce que il suffit
que les personnes viennent. Est-ce qu'ils seront malades?
Est-ce que tu viens?
Ouais, moi,
tu viens. C'est parfait. Alors, levez la main. Est-ce que ça vous va?
Bon, voilà.
Donc, vous êtes engagé à venir. Est-ce que dans 2 semaines, tu pourrais être prêt? Ça irait? 2 semaines, c'est trop tôt. Dans 3 semaines, comment on fait? Dans 2 semaines.
Il s'agit d'un vote ou d'un sondage?
Un sondage.
Il s'agit d'un vote ou d'un sondage?
C'est un sondage.
C'est du souffle d'un risotto.
Enfin, ça, que je vais
3 semaines.
Ok. Dans 3 semaines.
Un sujet concret par rapport à ça, c'est que il y a eu un vote contre la RIE3, et là ils sont en train de nous remettre l'assiette de vomi devant, et ça s'appelle PM17. Donc comment arriver à faire passer l'information la RIE3 qu'on a refusée il y a un an, nous la remettent sous un autre nom maintenant exactement.
Mais oui, mais c'est des choses comme ça. La traversée de la rade, ils vont nous resservir ça aussi.
On n'est pas obligé de choisir
l'atelier grain de sable.
Mais c'est un atelier grain de sable, et sur le moment, on votera sur. Mais est-ce que ça passe par un bout de film? Il faut revoir un bout de film, ou on passe tout de suite au concret?
Moi, on le laisse gérer.
J'aime faire du sous-titrage, donc je vais le sous-titrer. De toute façon, en français. Et puis, parce que je trouve que c'est mon petit grain de sable, enfin, la contribution aux copains du Brésil qui ont fait magnifique travail. Et alors, une fois que c'est sous-titré en français, à moins que vous sachiez le brésilien, je parle en passant en portugais, mais si ça vous intéresse, je fais une soirée et je vous le passe. C'est 50 minutes de film, ça vaut vraiment la peine. De toute façon, je vais le sous-titrer.
Le
2 mars. Le vendredi 2 mars.
Elle
n'a pas besoin de beaucoup de sable.
Ok.
À une plage.
Okay. S'il y a quelque chose d'autre à rajouter, si ce n'est pas le cas.
Quelqu'un a envie de.
Alors, maintenant c'est un moment informel, mais on se retrouve ici le 2 mars pour un atelier.
On peut chercher du sable.
Parfait. Merci beaucoup. Et